VOA Afrique, les infos à Washington.
Avec vous Henri Francisque, 13h à Ouagadougou, 14h à Yaoundé, bienvenue à notre journal. Au Malawi, deuxième jour du premier test grandeur nature d'un vaccin expérimental contre le paludisme, une maladie qui fait chaque année des centaines de milliers de morts en Afrique. Le point avec Morgane Guiriek.
Après 30 ans de recherche et un investissement $1 milliard, cette campagne vise à confirmer l'efficacité de ce vaccin expérimental sur des enfants de moins de 2 ans. Elle a débuté hier au Malawi et doit se poursuivre la semaine prochaine au Ghana et au Kenya. L'Organisation mondiale de la santé espère immuniser 360 000 enfants dans chacun de ces trois pays d'ici à 2020. Baptisé Mosquirix ou RTSS, ce vaccin expérimental a été développé par le géant pharmaceutique britannique GlaxoSmithKline et financé par l'Alliance du vaccin, le Fonds mondial de la lutte contre le sida et le paludisme, ainsi que l'UNICEF. Les essais préliminaires menés de 2009 à 2015 ont permis de réduire de 39% les épisodes paludiques chez les enfants de 17 mois à 5 ans. Son efficacité est donc relative, mais les chercheurs espèrent qu'avec les moyens de prévention comme les moustiquaires imprégnés, il permettra de réduire le nombre de victimes. L'Afrique est de loin le continent le plus touché par le paludisme, qui a fait 435 000 morts dans le monde en 2017.
En Libye, les combats continuent près de 3 semaines après le début de l'offensive du maréchal Khalifa Haftar, l'homme fort de l'Est libyen, contre Tripoli. Cette crise a été discutée mardi au Caire sous la houlette du chef de l'État égyptien Abdel Fattah al-Sissi, président en exercice de l'Union africaine. Un coup de projecteur sur la crise libyenne avec Idriss Fall qui a contacté Riyad Sidaoui, directeur du Centre de recherche sur le monde arabe à Genève.
Tout d'abord parce que l'État libyen n'existe pas. Alors en Libye, on sait bien qu'il y a des micro-États ou des micro-pouvoirs partout. Même Tripoli est partagé par plusieurs milices. Le maréchal Khalifa Haftar a une armée nationale plus structurée, plus organisée et plus discipline que les milices de Fajr Libya à Tripoli. Je pense qu'il y a certains États qui ont compris que la solution politique n'est pas pour le jour. Ça veut dire qu'il y a eu des négociations au Maroc, des négociations à Genève 1, 2, en Égypte, en Tunisie, mais en vain toujours, il y a eu l'échec des politiques. Donc maintenant, on parle de la solution militaire.
C'est ça qui explique que Donald Trump a appelé le maréchal Haftar et que le GNA accuse Paris de soutenir aussi le maréchal Haftar.
Oui, Paris a manifesté son soutien direct ou indirect vis-à-vis de l'armée nationale libyenne dirigée par Khalifa Haftar. Donald Trump aussi, dans un tweet, il a dit que Haftar a lutté contre le terrorisme, ce qui veut dire pour les Américains, ceux qui luttent contre le terrorisme international sont des alliés objectivement, mais par exemple, les contre Haftar, l'Italie a des bons rapports avec les islamistes de Misrata, la Grande-Bretagne a des bons rapports avec Fajr Libya à Tripoli. Au plan régional, on voit que l'Égypte, les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite soutiennent Khalifa Haftar. Or, c'est le contraire, la Turquie et le Qatar soutiennent les milices de Tripoli, Fajr Libya, qui sont composées en plupart des frères musulmans ou même des islamistes d'Al-Qaïda comme Abdelhakim Belhaj.
Le Tchadien Idriss Déby Itno aussi a affiché son soutien à Khalifa Haftar.
Oui, évidemment. La Libye a plusieurs voisins, que ce soit l'Égypte ou l'Algérie ou la Tunisie ou le Tchad ou le Niger. Ces États aussi ont le droit d'un regard à ce qui se passe en Libye parce que ça fait partie de leur sécurité nationale. Que n'oublions pas aussi la Libye devenue un bastion des mouvements des terroristes, que ce soit de Daesh ou d'Al-Qaïda. Certes, Daesh a été éliminé à Syrte, mais pour retrouver d'autres poches en Libye.
Mais est-ce que Khalifa Haftar peut gagner la guerre? Parce que son offensive, il l'avait lancée depuis le 4 avril et il n'arrive pas à prendre Tripoli.
La guerre des villes, ce n'est pas facile. La bataille des grandes villes, surtout une grande ville comme Tripoli, ce n'est pas donné. Haftar ne va pas gagner cette guerre dans 24 heures, même si elle la gagne. Après aussi, il y aura des résistances de ces poches islamistes. Surtout, nous savons bien que les islamistes sont déterminés, bien armés aussi, et ils ont un soutien à l'extérieur. Donc, la bataille n'est pas facile. Mais apparemment, la conjoncture internationale est en faveur de maréchal Khalifa Haftar. Mais la solution finale en Libye doit être une solution politique, malgré les victoires militaires. Mais à mon avis aussi, il faut une victoire militaire qui aboutit à une réconciliation nationale et à une solution politique.
Riyad Sidaoui, directeur du Centre de recherche sur le monde arabe à Genève en Suisse, au micro d'Idriss Fall.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Au Soudan, le mouvement de contestation a intensifié ce mercredi la pression sur les dirigeants militaires en préconisant une énorme marche pour réclamer un transfert rapide du pouvoir à une administration civile. Nous appelons à une marche de 1 million de personnes pour demain jeudi, a déclaré Ahmed Al-Rabia, un des leaders de l'association des professionnels soudanais SPA, fer de lance du mouvement déclenché le 19 décembre qui a abouti à la destitution le 11 avril du président Omar al-Bashir, et qui réclame depuis le départ du Conseil militaire de transition qui lui a succédé à la tête de l'État. Le mouvement de contestation a reçu hier le soutien de Washington alors que les dirigeants militaires à Khartoum résistent jusqu'à présent aux appels en faveur de transfert immédiat du pouvoir. Nous soutenons la demande légitime du peuple du Soudan qui réclame un gouvernement dirigé par des civils, a déclaré mardi à l'AFP Makila James, une responsable du département d'État américain chargée de l'Afrique de l'Est en visite à Khartoum. Lors d'un sommet de l'Union africaine sur la crise soudanaise mardi au Caire, sous la houlette de l'Égypte, un appel a été lancé en faveur d'une transition pacifique et démocratique d'ici 3 mois au Soudan. Plus de détails avec Ekia Badou.
Les chefs d'État africains réunis au Caire appellent le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine à assouplir sa position et à prolonger de 3 mois le délai accordé aux militaires soudanais. Le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine avait menacé le 15 avril de suspendre Khartoum si l'armée ne quittait pas le pouvoir d'ici 15 jours au profit d'une autorité politique civile. Le Conseil militaire de transition au Soudan a jusque-là résisté aux appels du mouvement de contestation à un transfert immédiat du pouvoir à une autorité civile. Ce conseil a toutefois déclaré lundi étudier une proposition des leaders de la contestation pour maintenir la pression. Des milliers de manifestants sont installés depuis plus de 2 semaines aux abords du quartier général de l'armée à Khartoum. L'armée exige le démantèlement des barrages installés sur les voies d'accès sans faire fléchir les protestataires qui ont reçu hier le renfort d'un train spécial rempli de personnes venues du centre du pays pour réclamer un pouvoir civil.
Au Tchad, arrestation de Dinganayal Nelly Versinis, porte-parole du collectif contre la vie chère, pour avoir maintenu son appel à manifester demain jeudi pour protester contre la pénurie de gaz qui touche le pays en dépit d'une interdiction du gouvernement. Le porte-parole de la police, le colonel Paul Manga, a confirmé ce mercredi à l'AFP qu'il a été appréhendé à son domicile mardi soir et qu'il est actuellement détenu dans les locaux des renseignements généraux. Les organisateurs de la marche exigent la libération immédiate de M. Versinis. Le point avec Eric Manirakiza.
Lundi, le gouvernement avait pris un arrêté pour interdire la marche lancée par son collectif, tout comme à la mi-mars. Une première marche a déjà été interdite. Le collectif a décidé de maintenir la marche jeudi sur toute l'étendue du territoire. Depuis fin janvier, la raffinerie de Jarmaya, seule source d'approvisionnement en gaz du pays, tourne au ralenti. Le gouvernement avait autorisé l'importation de gaz du Nigeria ou du Cameroun, mais selon une source au ministère tchadien de l'économie, il s'agit d'un bras de fer entre le gouvernement et la société chinoise actionnaire de la raffinerie pour la renégociation de contrats qui est en cause. Conséquence, les besoins en énergie de la population ne sont toujours pas satisfaits.
Actualité américaine pour terminer. La Maison-Blanche a de nouveau raté mardi la date butoir fixée par l'opposition démocrate pour obtenir les déclarations d'impôts du président républicain Donald Trump, laissant augurer une âpre bataille judiciaire. Jean-Roger Bion.
Le secrétaire au Trésor qui a sollicité un report ne perçoit dans l'action des démocrates du Congrès qu'une volonté de publier les déclarations d'impôts du président. C'est la deuxième fois que l'administration Trump repousse le délai fixé par les démocrates de la Chambre des représentants pour cette demande présentée le 3 avril par la commission chargée des questions de fiscalité. M. Trump est le premier président américain depuis Richard Nixon à refuser de divulguer sa situation fiscale. Fort de leur nouvelle majorité à la Chambre des représentants, les démocrates sont dotés de l'autorité de réclamer ces documents. Jamais une telle demande présentée par cette même commission n'a été rejetée par le passé, ont-ils souligné. Les démocrates vont désormais consulter leurs avocats, selon des médias américains, réclamant les 6 dernières déclarations de revenus annuels du président. Ils avaient d'abord fixé un ultimatum au 10, puis au 23 avril.
Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet. Personnel.